drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Une bonne nouvelle. Les éditions Encre Vive ont repris. Encre Vive reprend son souffle, nous dit Éric Chassefière, qui a repris ses éditions. Après plus d'un an d'arrêt de publication, avant le décès de Michel Cozem, son fondateur, survenu le 10 juin 2023. Il y a aujourd'hui donc plusieurs numéros de la nouvelle série qui a été conçue par l'ancien et le nouveau comité de rédaction qui est réuni donc auprès d'Éric Chassefière, qui est un poète depuis longtemps d'Encre Vive et d'autres revues de poésie d'ailleurs. Voilà. Michel Cozem. Michel Cozem qui a marqué pendant 63 ans, puisque en 1960, il crée à Toulouse les éditions Encre Vive, et qu'il a poursuivi jusqu'en 2023. Tous les grands noms, quasiment, de la poésie française se sont retrouvés un jour dans Encre Vive de Michel Cozem. Nous devons lui rendre hommage, ce qui sera fait à Toulouse le 23 mai. Le 23 mai à Toulouse, nous aurons un grand hommage à Michel Cozem. En attendant, je vous demande d'écouter cette voix qui nous a tellement marqué pendant plus de 60 ans dans une émission du 7 février 2013.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Brotet et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons l'immense joie d'avoir dans ce studio de la rue d'Assali, Michel Cozem. Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu. Tu es un de nos proches sur le plan géographique, sur le plan affectif, mais en raison de tes nombreuses activités, tu es peut-être un de ceux qui se font le plus rare dans cette émission. Ça fait partie des paradoxes des poètes. Voilà, c'est pour dire la joie que nous avons à t'avoir ici, dans ce studio ce soir. Alors, tu arrives avec une dernière publication d'Encre Vive. La semaine dernière, nous avons annoncé, et vous le trouvez trouverez sur le site lespoètes.fr. Les deux derniers numéros d'Encre Vive avec Henri Brier et Madame Mouride.
Oui.
Aujourd'hui, donc, dans la collection, vous savez que Encre Vive, c'est la revue, mais il y a également une collection qui s'appelle Encre Blanche, qui publie des recueils, et également une collection Lieu, qui publie des recueils ayant pour thématique un lieu particulier, c'est-à-dire des textes qui se réfèrent en définitive qui font référence à un endroit particulier. Alors, c'est le 275e lieu, dire donc que le catalogue est important, 275, ça me paraît incroyablement important.
Oui, en plus, c'est une géographie poétique qui est extrêmement intéressante,
hein, oui,
et qui couvre tous les coins de l'univers, en fait.
Voilà. Alors, vous trouverez le catalogue sur notre site lespoètes.fr, donc tous les titres des collections dont j'ai parlé, c'est-à-dire la collection Encre Blanche et la collection Lieu, sont sur ce catalogue qui est actuellement en ligne et à jour. Et le 275 Lieu a trait à Arles et à la Camargue. Il s'agit de Paul Badin, La flânerie aux Alicans. Alors, donc là, on est en Camargue. Tu me disais, Michel, que la flânerie aux Alicans, c'est dans Arles.
Ah ben c'est un lieu emblématique d'Arles, c'est une grande allée ombragée dans laquelle il y a des tombeaux. Et toutes sortes de théories, me semble-t-il, traitent de ces tombeaux qui datent peut-être de l'époque romaine.
Alors ça explique ce qu'il y a en exergue de ce recueil, puisqu'il y a une citation de Maurice Genevoix, c'est la présence de la mort qui donne un sens à la vie. Et puis également, une citation de Vladimir Yankelevitch, qui est extrait de « Penser la mort », point d'interrogation, aux éditions d'Yann Lévy. Yankelevitch, qui a été l'hôte de Toulouse pendant toutes les années de l'occupation. Il était ici, donc participé à la résistance toulousaine, ici, Yankelevitch. Et il dit ceci, « Mourir est la condition même de l'existence. Je rejoins tous ceux qui ont dit que c'est la mort qui donne un sens à la vie, tout en lui retirant ce sens. Elle est le non-sens qui donne un sens à la vie, le non-sens qui donne un sens en niant ce sens. » Bon, c'est bien un philosophe. Alors, une petite citation donc de ce recueil. Les morts ne font plus guère recette. Grappes de touristes dans les arènes, au théâtre antique, au cloître Saint-Trophine. Rares ombres fugaces parmi les tombeaux. Morts, vous êtes l'humus de cette terre, son grand livre, notre ultime horizon. Votre absolue rigidité révèle et réveille nos vivantes fragilités. Voilà. Paul Badin, La flânerie aux Alicans, c'est aux éditions Encre Vive, le numéro 6,10€, à commander 2 Allée des Allobroges, 31-770 Colomiers. Ce sera bien entendu en ligne sur notre site lespoètes.fr. Alors, Michel, hyperactivité de Michel Cosem depuis les années 60, même depuis 1960, hein, puisque Michel Cosem crée ici à Toulouse, dans un lieu historique qui est l'AG, dans la rue Bélois, hein,
oui,
je crois que c'était là, crée la revue Encre Vive. Bon. Et cette revue, la preuve, nous en avons parlé la semaine dernière pour ces deux numéros, elle est toujours vivante. Et je dirais de plus en plus rayonnante. Voilà. Elle a l'avantage de présenter, Encre Vive présente une œuvre dans une unité. C'est-à-dire, les 16 pages en A4 permettent d'avoir une connaissance quand même assez, je dirais, complète d'un auteur. C'est-à-dire que souvent, dans les revues de poésie, vous avez deux textes, trois textes d'un auteur, une espèce de panorama, de florilège, mais qui ne donne pas une approche véritablement, on ne peut pas vraiment cerner l'auteur. Or, dans Encre Vive, quand on reçoit l'art, quand on va lire Paul Badin, eh bien, on entre quand même de plein pied dans le style de l'auteur et on a quelque chose qui représente une unité et à mon avis, c'est la grande force de ta revue.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'univers d'un auteur, mais aussi dans une œuvre, parce que beaucoup d'auteurs qui ont été déjà publiés en Creux-Vives reviennent très souvent, très facilement.
Tout à fait.
Et donc, c'est d'abord une sorte de continuité, et on peut voir l'œuvre se dérouler. Et il y a aussi, quelquefois, dans l'abonnement, des numéros spéciaux sur l'auteur, sur un auteur choisi par le comité. Et cet auteur-là s'est explique oui, sur son écriture,
il y a des critiques.
Oui. Donc on peut entrer véritablement dans le monde de l'auteur, et c'est ce qui fait effectivement en France à l'heure actuelle un petit peu l'originalité d'Encre-Vive, et aussi le fait que beaucoup d'auteurs frappent à la porte.
Oui. Alors si on regarde ton catalogue et les poètes que tu as publiés, rares sont les auteurs que tu n'as pas publiés en définitive depuis les dernières décennies. Il y a très peu d'auteurs qui n'aient pas eu à un moment ou à un autre des textes publiés en Creux-Vives.
Oui, mais
donc il y a un éclectisme.
Oui, mais en même temps, tu le sais bien, il y a une grande un choix qui est fait.
Ah non, je parle des auteurs qui sont ensuite reconnus.
Bien sûr.
Voilà. Ça, tout ça, façon, dans toute l'histoire, si on refait l'histoire de la poésie et des auteurs qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle et maintenant, on va retrouver des auteurs que tu as publiés.
Bien sûr.
Voilà.
Et quelquefois, des premiers auteurs qui ont été publiés par Encre-Vives, qui sont passés au seuil, et même chez Gallimard.
Oui, oui. Ce qui n'est pas, je veux dire, et même souvent, je sais pas de... Joubert par exemple,
pour Jean Joubert c'est autre chose, il aime beaucoup la poésie qui se développe dans Creux-Vives, et chaque fois qu'il a des textes qu'il veut faire connaître éparpillés autour de lui, il le fait vraiment avec un grand plaisir, et puis, de toute façon c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille.
Voilà. Et d'autres comme lui. Donc un panorama impressionnant donc de la poésie, ce qui fait que je me dis, quand on regarde ton catalogue, c'est extraordinaire quand même tous les auteurs que tu connais dans ce monde-là, quoi. Et tu es peut-être un de ceux qui les connaît le mieux, parce qu'il y a à la fois les très très connus, mais il y a également ceux qui émergent ou...
Voilà, oui, mais
cet éclectisme et cette recherche.
C'est un peu le rôle d'une revue ou des éditions, parce que je ne sais plus si c'est une revue ou si ce sont des éditions. Le but, ce n'est pas de publier des auteurs reconnus pour faire un chiffre d'affaires. C'est pas du tout l'optique d'Encre-Vives. C'est au contraire de faire émerger des auteurs nouveaux. Et il y en a beaucoup qui ont émergé à Encre-Vives et qui vont se développer par ailleurs. Ou après, pour des auteurs plus ou moins reconnus, de se poser un moment, de faire connaître une nouvelle piste. Enfin, il y a tous les choix possibles de l'écriture de qualité sont offerts par Encre-Vives.
Tu écris un peu l'histoire de la poésie, l'histoire contemporaine de la poésie, ce qui permet de suivre un peu le déroulement.
Oui, je pense d'ailleurs c'est un projet, d'ailleurs je lance un appel à un éditeur s'il est volontaire, de faire une anthologie, un choix de textes d'Encre-Vives, ça recoupe 50 ans d'écriture poétique en France, et je crois que ça serait un beau sujet d'anthologie.
Tout à fait. Alors, indépendamment de cela, bien sûr, toi, tu développes une œuvre de poésie, donc poète, alors... Tu es connu depuis les années 60. Hein. Moi, c'est un des premiers quand je suis arrivé à Toulouse. Le premier nom que j'ai eu dans la poésie, c'était Michel Cozem, donc Encre-Vives dans les années 60. Tu as le prix Artaud. Tu es lauréat du prix Artaud. Tu es lauréat du prix Malrieux. Et donc... tu es cité déjà dans les années 80 par Robert Sabatier dans sa grande anthologie des poètes du XXe siècle. Il dit que tu es le poète du bonheur intérieur. Hein, c'est une expression.
Oui, voilà. Sabatier m'a qualifié comme ça.
Voilà. Donc, dans la poésie française du XXe siècle, il dit que tu es un voyageur contemplatif dans l'aveuglant paradis. Ça, c'est Gilles Lade.
notre ami Gilles Lade qui dit ça. Il est, tu es l'auteur de nombreux recueils de poèmes, également de romans. C'est-à-dire que, indépendamment d'une œuvre poétique qui n'a pas cessé en définitive, hein, qui est incessante, chez toi, il y a toujours une publication en cours, la poésie. Tu publies des romans, donc des romans et également des romans et des livres pour la jeunesse.
Oui, c'est-à-dire que la poésie pour moi, et maintenant je peux porter ce regard un petit peu sur ce que j'ai fait, la poésie pour moi a été une sorte d'épine dorsale de l'écriture. C'est par elle que j'ai inventorié d'autres territoires, et dont celui du roman, le roman pour la jeunesse, mais aussi le roman pour adultes. Oui, les deux d'ailleurs se ressemblent beaucoup. Et c'est grâce à la poésie que je suis entré dans le monde du langage, de l'écriture, et aussi de la recherche de qualité, parce que la poésie ne peut pas être médiocre, c'est pas possible. Et donc il faut cette recherche, ce travail perpétuel qui va vers la perfection, et je pense que aussi ce travail m'a été utile pour faire que mes romans soient aussi des œuvres quelque part originales. Ouais.
C'est qu'on retrouve le poète dans le romancier, bien sûr.
Oui, je pense, c'est-à-dire que le roman demande une autre optique, une autre technique de travail, hein, c'est-à-dire avec une histoire, un personnage du début à la fin, mais dans le texte, à un moment donné, il m'arrive de décrire des morceaux de nature, des instants, d'émotions, avec les mots de la poésie.
Alors, le dernier roman qui est en cours, ou qui est ton dernier roman publié, actuellement, c'est quoi ?
Eh bien, c'est un roman qui se passe dans les montagnes pyrénéennes. Ça s'appelle Le Bois des Demoiselles, dans une région que je connais bien, où j'ai vécu quelques années. Et dans Le Bois des Demoiselles, je raconte... avec 3, 4, 5 personnages différents, dont un conteur, un montreur d'ours. Je raconte l'histoire de la montagne, des paysans, des bergers, au moment où l'État français s'est manifesté à leur égard en leur interdisant d'entrer dans les forêts. Ce qui a déclenché une révolte d'abord un peu carnavalesque, en fait, mais progressivement ensuite qui est devenue plus rude, puisque la gendarmerie, les militaires sont arrivés dans la montagne pour chercher les bergers qui se revêtaient d'une grande robe blanche, c'est pour ça qu'on les appelait les demoiselles, et qui faisaient quelques forfaits ici ou là. Mais en même temps, ça c'est le côté un peu anecdotique, mais en même temps profondément, c'était des hommes et des femmes qui luttaient pour leur vie dans la montagne, leur vie ancestrale, et à qui on arrêtait
des taxes,
de tout, de pouvoir vivre correctement selon leur tradition. Alors je reprends tout ça dans ce roman, mais aussi en ajoutant donc des contes, puisque j'ai écrit aussi des contes des Pyrénées, qui viennent d'ailleurs, il y a une nouvelle édition qui vient d'être faite aux éditions Cairn, et avec deux tomes de contes des Pyrénées. Donc j'ai réintroduit des contes, j'ai inventé la vie d'un montreur d'ours du Couserans. C'est-à-dire que je me suis régalé, bien sûr. L'écriture, pour moi, c'est toujours un plaisir. Mais en même temps, bon, j'ai essayé d'évoquer cette montagne à cette époque-là, la vie des gens, leurs sentiments, l'histoire aussi, bien sûr. Bien sûr. Marqué, bon, notamment, je raconte l'histoire d'un mauvais garçon, disons, de foi, qui pour échapper à la police en va, prend le bateau à Bordeaux pour aller aux États-Unis, où il entrera bientôt dans la mafia, et c'est une histoire qui s'est répétée plusieurs fois. Beaucoup d'Ariégeois se sont retrouvés du côté d'Al Capone. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui font, en se croisant, en s'additionnant, en se multipliant, en s'accouplant, si tu veux, eh bien, qui forment ce roman.
Voilà.
Donc, je pense bien que je suis très intéressé d'abord parce que c'est mon pays.
Et j'ajoute, c'est aux éditions Deboré qui publie de très beaux livres.
Publie beaucoup de choses. Justine et les loups, par exemple.
Oui, il y a eu Justine et les loups avant.
Oui. Alors, poésie, là aussi, foisonnement quand même de recueils. Hein. Et dans les thèmes que tu abordes, il y a le thème du lieu, c'est-à-dire le regard que tu jettes sur le lieu, l'endroit où tu te trouves à un moment donné, et la sensation que ce lieu procure à toi, et donc, bien entendu, que tu vas faire passer chez le lecteur. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de toi à ce micro à propos de J'aime Sacré, parce que J'aime Sacré, en définitive, a eu la même démarche que toi sur les États-Unis. C'est-à-dire qu'il a parlé des États-Unis avec un très beau livre qui s'appelle America Solitude, et les États-Unis n'ont pas parlé du Grand Canyon, etc., mais des petites villes, des endroits qui ne sont pas des endroits particulièrement touristiques, mais qui représentent un fort intérêt parce qu'ils peuvent créer justement cette sensation où il y a une forme d'humanité aussi qui se dégage dans les petites villes, dans les routes désertes, etc. Voilà. Et je disais ça, c'est exactement la même démarche qu'à Michel Cozem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu en définitive qui ne puisse t'interpeller. C'est un peu ce que l'on ressent. Voilà. Alors, c'est Gaël Josse qui écrit dans un livre dont nous avons parlé ici, Le Sud du Soleil, aux éditions de l'Atlantique, hein, qui est toujours disponible, que vous pouvez commander, il faut faire vite. Hein. On peut commander également éventuellement chez l'auteur, je suppose, peut-être.
Hein. Oui, bien sûr. Hein. Oui.
Donc, même adresse, c'est-à-dire 2 Allées des Allobroges. Et qui dit ceci à propos de ce recueil qui reprend des textes, des petites proses justement sur les lieux que tu as traversés. Michel Cozem ne cherche pas l'inspiration, elle vient à lui car il regarde le monde. La beauté est là, inattendue, inespérée, toute blanche et nue, sans miroir, sans cicatrice. Il y a en lui quelque chose d'un Monet arpentant la campagne, chevalet et bottes de couleur en bandoulière, célébrant le jour en guettant ses plus infimes nuances de lumière. Être là, au moment juste, et savoir dire. Capter la lumière des choses avant qu'elle ne s'éloigne, disait Bachot, pour définir l'art poétique du haïku. Par instant, nous n'en sommes pas si loin, avec cette façon qu'a l'auteur de respirer, de poser son regard, et de laisser les choses parler d'elles-mêmes par leur seule présence. Nous sommes ici en poésie, en pure poésie, écrite à l'encre vive du bonheur d'être. Bon, très belle prose donc, de Gaël Josse, et qui résume bien cette démarche. Alors, ce soir, je crois que tu vas nous lire, Michel, des textes qui sont extraits de ta collection Lieu. Donc des textes sur des lieux particuliers.
Oui, là j'ai porté deux des derniers titres. L'un qui s'appelle La Ria du Cygne Noir. Ce sont des textes que j'ai écrits en Galice, sur le chemin de Compostelle. Et il y a un autre texte qui s'appelle La Jarre de Dulciné, que j'ai écrit dans la maison de Dulciné, dans la véritable, dans la Manche, donc la maison de Don Quichotte, ah oui, en fait.
Oui, oui, oui.
Et donc j'ai envie de vous lire ce soir.
Alors là, on est en Cantabrique, hein, c'est la région des Rias, ce qu'on appelle la région des Rias en Espagne.
Ah,
les estuaires, le premier, là, la Ria du.
Oui, tout à fait, dans la Ria du Cygne Noir, qui existe. Bah,
c'est une belle région, hein,
sinon, oui, oui. Et en même temps,
la Galice,
du côté de Saint-Vincent, et,
avec un climat particulier aussi, la Galice. Oui. Hein.
Mais en même temps, pour moi, je complète un petit peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport au lieu. Quand je suis dans un lieu, même si a priori il ne me parle pas, mais je suis tellement ouvert finalement que tous les lieux me parlent, mais j'ai envie de les mettre en mots. Et en les mettant en mots, j'arrive encore à approfondir un petit peu mon rapport au lieu, par rapport à l'instant, à la vie, tout simplement. Et c'est une manière aussi d'approfondir, de ne pas être un simple passant furtif sur quelque chose de lisse, mais d'entrer en profondeur, en résonance avec un lieu. Et l'Espagne, pour moi, c'est un des lieux privilégiés. J'y vais souvent, j'ai des coins où je retourne avec un très très grand plaisir. Et voilà, je reviens avec ces carnets, je remplis des carnets, je reviens avec ça. Et donc la collection Lieux d'encre vive permet de donner, comment dire, de donner ces textes le plus vite possible, de le faire en sorte que ils ne restent pas trop longtemps des cartons. Et à cette occasion, je rappelle ce que tu disais tout à l'heure de Paul Badin, la flânerie au Saliscamp. Paul Badin a déjà publié en crevise aussi quelque chose sur Petite impression de Galice, sur l'Afrique, sur le Rajasthan, sur l'Algérie, la Russie, la Grèce, l'Espagne, et bientôt il y en a un autre qui sera sur la Grèce. Donc voilà, la collection Lieux d'encre vive, c'est en quelque sorte les carnets de voyage poétiques.
Là aussi, ça ferait une belle anthologie.
Ah, ça serait vraiment une géographie aussi, une géographie tout à fait extraordinaire.
Voilà. Bien, on t'écoute donc, Michel.
Sur la route, avec des oiseaux gorgés de pollen, des arbres qui harcèlent les châteaux de terre rouge. Dans le vent à odeur de jasmin et de roquette, où se retournent les ailes des papillons. Parfois se dressent derrière la colline les grands taureaux Osborne, dans la paix d'un monde imaginaire, d'un bout du monde. Dans les fêtes foraines, aux filles presque nues et criardes, dans ces villes tassées sur elles-mêmes, buvant à même la poussière rousse et les eaux vertes de la Alcaria. Pays, ciel habité, comme une danse d'horizon née de l'aube, du déchirement de l'oiseau, les enfants du village de Sauca jouent au ballon avec une adolescente flûtée et une gorge de pollen entre les murets, et ces légèretés de sentir le soir courir le long des toits. Pays né d'un désir de ciel, avec un puits au cœur et des odeurs de jeune blé et des poussières comestibles. Bâti avec du vent, de la poussière, du désespoir de l'oubli, les maisons de l'îlot n'ont jamais fini leur combat avec le soleil. Elles brassent le néant, la lumière et le silence, ces rêves qui naissent aux hommes des grandes plaines. Avec des horizons de sillons rouges, les gardiens du silence, et les enfants batailleurs boivent au petit jeu et réinventent la cruauté. Non loin d'eux, semblables, les gros coquelicots pagailleurs. Café un peu amer, en regardant partir le pollen des peupliers, vers les terres blanches et sèches, ces vieilles femmes juchées sur des ânes noirs, la solitude et la chaleur, les ombres chevaleresques, d'imaginaire en imaginaire. Ses pas s'inscrivent dans la poussière, alors que de jolies filles comme des fruits couronnent la grosse église de Teblenque. Épaisseur infinie de l'ocre ce jour de jeudi saint, sur cette plage qui sent le chocolat et le vieux bois de la steppe. Maison blanche de Dulciné, près du cheval de bois et du chai, alors que le soleil tranche une à une les grosses poutres et que les mûriers à l'intérieur écartent leurs tendres feuilles dans le vent froid, le volet vert qui grince à la rencontre du vent du sud, à l'infinie quiétude des nids, et les cris des oiseaux annoncent qu'une feuille de vigne est née pendant la nuit. Dans la plaine, la grande plaine, le bêlement d'un mouton, couleur de sang, angoisse et solitude. La grande maison a refermé ses portes, la jarre de terre cuite aux couleurs de la terre, de l'infini, garde la vie de la maison, de l'aurore au couchant, les cris des enfants. Nul ne sait combien est puissante cette secrète femme au milieu des objets et du chant de sa présence. Dans la rue de Don Quichotte, un matin de vent froid, noir et blanc, les lampadaires, comme des silhouettes, comme des légendes, combattent les portes bien cloutées. Le vent nettoie les galets plats, et sur les murs sont écrites des paroles de romans. Là, on va un peu changer d'univers. On va se transporter vers un coin plus proche de nous, les Corbières. Autre pays, autre territoire que j'aime bien et où je vais souvent.
Et que tu habitais.
Que j'habitais en partie,
oui. Ça va un peu loin.
Abraham. Oui. Et donc, voilà, les Corbières. D'ailleurs, un de mes prochains romans se passera tout entier dans les Corbières. Et le lieu d'Ancreville, qui s'appelle ici les Hauts de Tramontane, comme les Hauts de Hurlevent, eh bien, les Hauts de Tramontane, c'est les poèmes que j'ai écrits justement pour m'approprier un peu plus, pour entrer un peu plus dans les paysages et dans l'histoire. Dans le roman, je peux parler des guerres, évidemment, contre les Cathares, de la prise du château de Termes, par exemple, qui joue un rôle important dans mon roman. Mais là, au niveau des poèmes, c'est plus des sensations, des images glanées comme ça, un peu par hasard, au tournant d'une route, d'un chemin, près d'un rocher. Voilà, donc je te propose un voyage dans les Corbières.
Allons-y.
Sauvage, dans le vent glacé, le poil hérissé, les gorges hurlantes, la montagne griffant le ciel, marquant le sable d'empreintes géantes, écrasant les pierres batraciennes, arrachant les premiers pétales des amandiers, et les petits bourgeons des vignes défaisant les odeurs de soleil, guident des hordes d'arbres têtus. Tout est à emporter dans la besace du néant, y compris la dent du sanglier, le cri navré de la buse et les coups de couteau des éperviers, la plainte sourde des abîmes, aux prises avec le vent. Au loin se dessinent l'école, les échines, les mâchoires du pays cathare, où s'éparpillent les assaillants. Sur le seuil des petites maisons de pierre, entre les lentisques et les chênes verts, les nids de poules faisanes. À contre-jour, dans le prolongement d'une muraille, vont les cavaliers. Ils se suivent et ne regardent pas la plaine. Ils n'ont pas de hâte, ils résistent seulement aux bourrasques. Ils n'ont faim ni de pain ni de femme. Là, au cœur du matin glacial, ils sont rochers, unis à jamais au corps de leurs chevaux. Le long chemin du buis, à l'abri du vent et des mauvais regards, l'homme chemine, coupé en deux, partagé par la lumière. Il sait chaque pas et chaque part, celle de l'eau venue du ciel, celle de la pierre venue des entrailles, et il chante avec le vent qui joue à l'étouffer. La montagne d'Alaric, sanglière et mouillée, dort tout au long de la plaine. Elle hume à petits coups le feu de sarment, la chair grillée. Elle surveille les invasions, respire à peine. Elle laisse le printemps danser avec les genêts et les vignes se colorer du pollen des pins. Elle attend, je ne sais quoi, depuis toujours. Les galops dans la steppe, le cristal des matins de givre, le vol d'un aigle, la beauté d'un croissant de lune, l'infinie liberté des caravanes. Elle a la nostalgie des conquêtes et des prodiges, mais garde malgré tout son affût rapace, aussi précieusement que sa peau. La falaise, toute droite, avec ses dents dressées, son sourire indifférent, réfléchit au temps géologique, aux tempêtes qui viennent parfois lui arracher des lambeaux de peau. Nuit et jour, elle se dresse, tel un chevalier de fer, et même si les aigles qui nichent l'amusent, elle se souvient plus d'eux dans l'instant. Je passe près d'elle, je ne suis qu'un duvet, sur les ailes du temps. Terre respirée, aux lèvres de glaise, aux dents de pierre, aux buissons tracés de vent, aux yeux étroits de serpent, terre de silence drapée dans des gestes pudiques et des mémoires qui brûlent profondément femme, éparpillant ses pépites dans le vent glacé du matin, mettant le feu du soleil dans ses châteaux sans espoir, terre au goût d'écorce, torturée comme une vigne dans les nervures de son vertige. Le bouquet de jeunes chênes éparpille le vent dans le ciel bleu et donne ce qu'il faut d'écorce et de sève aux sorciers et aux chevaliers errants. On est bien là, en un lieu secret, ouvert aux confidences, et l'on apprend tout du temps et de la dignité de vivre. La fille, aux cheveux raides et souples, comme la vigne, ses yeux de raisin mûr cachent peu de secrets. On sait qu'elle a passé sa nuit avec des chimères et qu'elle parle au premier venu, comme si c'était son frère. Elle est sortie de nulle part, avec ses raisins noirs, son regard résiste au vent glacé, aux ruines qui s'amoncellent dans la montagne, au désert du matin. Elle a le ventre familier et des mains qui bougent devant sa poitrine comme les flammes de sarment. Une armée de sangliers à la trogne sauvage sort de la nuit glaciale et s'enquiert de l'origine du vent. Le soleil procède avec lenteur et efface cette colère, celle d'avoir rien gagné avec la nuit. Et cela depuis des millénaires. Le buis, aux cachettes multiples, butine les restes de neige. Il est têtu malgré son cri d'alouette et signale à qui veut l'entendre que la ravine se creuse vers les Pyrénées blanches et sublimes, et qu'il ne faut pas se fier aux lèvres des pâquerettes. Salsa, le village. Dans son corset de pierre terreuse, résiste à tout, au froid, au vent, au soleil, à la laideur, à l'inachèvement. L'église, la porte ouverte, ne donne pas envie de mourir ici. Les deux chevaux dans le vent glacé attendent le soleil. Sur la terre suspendue, sur l'herbe pelucheuse, ils surveillent l'âme des défunts et des pèlerins qui passent par ici pour aller au bout du monde. Cheval et jument, dans l'enclos ouvert à la lumière et à l'espace, s'abreuvent au soleil, jouent ensemble et se contredisent. Quelques brins d'herbe et une fleur de pissenlit disparaissent dans le corps de cuir luisant, mais dans chaque galop, chaque ruade, chaque regard sur la haie, chaque intérêt surgi du vent, roule l'énorme envie de l'espèce. Le vin des corbières est noir, il parle toujours doucement, à la tombée de la nuit adore la plainte de la hulotte. Il a les lèvres brunes des étrangères du sud, ses dents mordent la montagne et raconte à demi-mot des histoires infinies.
Michel, tu dis que le vin de, des corbières couleur noire, il y a dans le Cabardès, je crois que c'est les éditions de la Table Ronde qui faisaient venir un auteur chaque année qui était publié dans la Table Ronde à condition que le livre de la publication commence par le vin de Cabardès. Oui. Et parmi ceux qui sont venus, il y a William Cliff, donc, qui est venu à Montolieu d'ailleurs écrire des poèmes, un très beau recueil de poésie là, dans ce, avec ce vin de Cabardès qui est le voisin donc, du vin dont tu parles.
Ouais.
Donc des textes vraiment imprégnés dans le, qui font partie du terroir, on sent le côté rugueux, le vent, etc. Toutes ces sensations que les mots arrivent à recomposer pour nous les faire vivre. C'est Pierre Michon qui dit dans Le Roi quand il veut, c'est un propos sur la littérature. Donc Pierre Michon qui dit « J'écris pour garder intacte l'émotion, le tremblement d'un bout à l'autre. La longueur de corde, ajoute-t-il, impartie au fil de ferriste et brève. » Bon, ça veut dire que on est sur le fil quand même du rasoir, mais l'écriture lui permet de garder intacte donc cette émotion. Est-ce que quand tu lis ces textes, tu ressens aussi l'émotion qui les ont fait naître?
Je ne dis pas que ça me restitue intégralement les émotions de l'instant, parce que lorsqu'on est dans un lieu, on a toutes sortes d'interférences, mais il n'empêche que quand je les relis, je me retrouve quand même quelque part au milieu de ces pierres, au milieu de ces arbres, avec le regard sur les Pyrénées, sur les roches, mais aussi dans mon regard, enfin derrière mon regard, il y a aussi l'histoire. L'histoire des Corbières est très riche, même si c'est un pays quasiment désert maintenant. Et donc, cette histoire vient enrichir, en quelque sorte, la vision du lieu. J'ai du mal à... Enfin, je voyage beaucoup, souvent je vois des touristes qui passent, qui photographient, qui s'en vont, et je me dis qu'ils sont vraiment malheureux, que je ne leur ressemble pas, parce que je ne pourrais pas faire ça, parce que il me faut approfondir, savoir, même avant le voyage, préparer ce que j'avais fait là, amplement, par exemple, avec le Mexique ou l'Égypte. Donc, voilà. Donc, l'écriture permet... autre chose, et je crois que c'est les réactions au moment où je lis, elles sont fortes, elles sont vivantes, et j'essaie de les partager aussi. Ça, c'est le grand sujet de la poésie. J'essaie de les partager avec les lecteurs.
Bien sûr. Oui, c'est ce partage est essentiel en définitive. Oui. C'est-à-dire que tu récoltes ça dans le but aussi de le faire vivre. Avec une manière qui sera peut-être différente, c'est-à-dire que moi quand je peux lire tes textes, peut-être que je n'aurai pas le même éclairage que toi parce que je connaîtrai un peu moins l'histoire, etc. Mais il va naître une émotion quand même qui va me faire pénétrer dans ce lieu.
Oui, c'est tout la magie de l'écriture en fait, hein. Oui. Que ce soit la poésie ou que ce soit le roman, d'ailleurs c'est oui. Pareil. Hein. Avec l'écriture, on fait naître le monde en fait. Écrire, c'est créer le monde. C'est un slogan qu'on a beaucoup utilisé à Encre Vive à une époque, et je crois qu'il contient une grande part de vérité, quoi.
Alors, toi qui es un hispanisant, et je crois que nous joignons tous les deux là dans cet amour de ce pays, l'Espagne. Il y a un philosophe qui s'appelle María Zambrano qui a écrit « Así un saber sobre el alma ». Il faisait un savoir sur l'âme. Il dit « Sauver les mots de leur instantanéité, de leur être transitoire et les conduire par notre réconciliation vers le perdurable, c'est la tâche de celui qui écrit ». Est-ce qu'il n'y a pas dans ta démarche également cette vocation à faire que l'instantané de la vision que tu as eue, du lieu, du flash que tu as eu, va par cette écriture rentrer dans le perdurable?
Oui, je crois que c'est peut-être aussi le rêve de tout écrivain, hein, de se suspendre le temps en quelque sorte, de le prendre et puis de le rendre éternel. Je crois qu'il y a ça, c'est vrai. Mais dans tous les poèmes, je pense qu'il y a cette volonté de donner, d'échapper un petit peu au passage, à la banalité, à l'instantanéité, si on peut dire. L'écriture essaie d'aller au plus loin, et c'est là où on juge d'ailleurs sa qualité et son efficacité, quoi.
Alors, pour en revenir toujours à María Zambrano, qui est mort en 1991, il était né en 1904, il dit ceci: la poésie est réponse, la philosophie à l'inverse est question. Alors, la question de la question surgit en chaos, du néant, du désespoir qu'il cause, alors que la réponse, c'est-à-dire la poésie, ordonne le chaos, rend la terre habitable, aimable et plus sûre.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord.
C'est extraordinaire comme...
Mais il me semble que la poésie, par elle-même, elle est totale. C'est un bloc, et c'est vrai qu'elle ne peut pas être subjective. Hein. Elle procure des réactions subjectives, ça c'est évident. Mais en même temps, elle est, c'est quelque chose, un bloc objectif. Ouais.
Michel, on va te demander de poursuivre dans ce voyage autour de... Alors, toujours dans les Corbières, là?
Oui, on va rester dans les Corbières. Ouais. Né de la pierre, de la falaise et de la peur, le haut château est maintenant la fleur ruinée des nuages. Vu du pommier sauvage, il est aussi le havre des troubadours. L'olivier et le buis lui font une conque d'ombre. Reste unique le silence, le plus merveilleux des langages. Clameur sous les remparts. Les oriflammes claquent, les couleurs battent, les ciels percent le ciel. Les aigles tournoient pareils à de nocturnes fantasmes et disparaissent dans la toison fauve de la montagne. La bataille est lancée. Nul ne saura qui en sera vainqueur. Le village de pierre grise lutte contre les ruines, repousse les assauts d'une armée d'aubépines. Le vent ne souffle plus, il attend pour reprendre la tempête. De vieilles racines noires se promènent sur les murs, et les ceps de vignes déterrées ont des larmes de glaise, et l'on s'apprête à écouter, épouvanté, le vieux hibou du clocher. La montagne cache ses joyaux, les épaves des grandes ruines et des grands vents. Elle écoute battre au dehors le grand cœur du soleil accroché au mur de l'auberge. Joue, bat, outil, témoigne d'un long travail et d'un immense voyage. Poignante, austère, tragique, tragique Corbière, habitué aux menues histoires de la solitude, mais déjà avec les lèvres serrées. Lorsque la terre se craquelle et transforme le troupeau en pierre, en empreinte sèche dans la glaise, et les noirs rapaces des sortilèges. Je te parle et tu réponds. Je sais que l'on chemine et que l'on s'aime. Je te donne ce soir ces mots du lendemain. Je te donne toujours les mots de la fin, ceux de mon pays de labour et de rêve, ceux des eaux sans partage, et ceux qui reconnaissent l'image viennent comme des loups ou chevreuils boire selon leur convenance. L'Occitanie est toute proche, avec ses parcours sans frontières, et c'est bien que l'on soit le temps d'une braise là, tout contre elle. L'automne s'accroche à une feuille rouge au bout de la tige. La muraille, comme un croc, pour mordre les nuages, pour agripper le vent, sans cesse en peine. Sauvage est la peau de la nuit, en ce pays de pierres et de ravines, d'arbres rudes, sauvage est le matin, dans la plaine fauve des faux-doubs. Après la tramontagne, tout se tait. La prairie, les haies à chevaux, le fourré couleur de vin vieux, le talus où ont poussé de nouvelles pâquerettes, un oriflamme plein de sang, flotte sur les ruines du château, et le vent répand la nouvelle, et un lamanteau de pierre sort des gorges animales.
On a changé de lieu.
Alors merci pour l'Occitanie.
Voilà, l'Occitanie, les Corbières, c'est le cœur de l'Occitanie en fait. Et là, je repars un petit peu sur le chemin de Galice, avec un poème qui souvent a été repris dans des anthologies ou dans des livres sur la poésie d'aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de le lire là pour terminer. Cet homme, couleur de chemin. Couleur de la terre du campo, couleur du couchant sableux. Assis sur un tronc d'arbre, couleur de chemin, couleur de campo. Couleur d'argile cuite, couleur de pierre que ronge le vent. Cet homme mangeant du pain dur et buvant de la mauvaise eau, piqué par les guêpes, couleur de soir, de sable et d'eau, pris au piège des miroirs des champs d'oiseaux et s'avançant comme une ombre, sur le chemin couleur de la terre de Campo, couleur de vent, assis un temps pour l'éternité, tandis que bruit au loin, au bout de toutes les terres, une forêt de vagues bleues et douces et d'eucalyptus taillées comme des lames, tandis que les faciles collines de Compostelle se penchent, un peu pour boire, la poussière du Campo, le tranchant des roches et les pourtours sablés, du soleil rouge qui se couche. Alors Michel, on va rappeler le titre de ces deux recueils dont parus aux éditions Encre Vive Collection Lieu. Le premier, c'est La Ria du Cygne Noir, Galice et Mancha. Et le second, c'est Léo de Tramontane, Les Corbières, Aude. Voilà. Alors je pense que La Ria du Cygne Noir, je pensais à Michel Delgado, hein, qui est galicien et qui disait que la Galice, le climat de la Galice, était le plus sinistre qu'il ait connu au monde. Alors, avant les quelques minutes là qui nous restent, je voudrais te dire, on sent qu'il y a quand même, quand on t'écoute, en particulier quand tu parles des lieux, etc., il y a, c'est vrai ce que dit Robert Sabatier, il y a une sérénité et on sent qu'il y a une espèce de jubilation interne, mais quelque chose une espèce de joie pure, ce que Simone Veil appelait la joie pure, c'est-à-dire, bon, c'est pas la joie euphorique, mais c'est une joie intérieure, très profonde, et qui permet un petit peu d'aborder quand même les vicissitudes de la vie. Alors moi je pense à notre poète qui est Charles Juliet, qui a connu des vicissitudes terribles dans la vie, et puis qui a décidé d'être poète à tout prix, et qui a dit « Pouvoir du poème qui redonne vie à celui qui mourait d'inanition. Bon. » C'est-à-dire que le poème, en définitive, est quelque chose de très salvateur dans la vie, ce que Annie Arnaud appelait la vie extérieure, la vie du quotidien, des brusqueries du quotidien, etc.
Je ne peux que dire oui, parce que la poésie enrichit, la vie lui donne des couleurs, lui donne un sens, lui donne des éternités. Donc voilà, la poésie c'est tout ça, et c'est tout... Bien sûr, on peut avoir une vie sans poésie, hein, c'est évident. La plupart de nos contemporains, ils sont en plein. Mais la poésie rend la vie un peu plus riche. Je ne dis pas qu'elle peut la rendre plus heureuse, c'est pas la question. Mais en même temps, elle ouvre un regard sur la beauté et en même temps sur la lucidité.
Elle comble, je lui ai dit, d'inanition, c'est-à-dire qu'elle comble un vide. Elle peut être... lui, c'est le vide qu'il ressentait dans la...
Oui, et, ouais. Mais moi, je pense que c'est pas un vide. J'aurais...
Oui, oui, ça, la poésie, tu
oui. Donc, je
lui, pas manifestement pas, quand même.
Non, oui. Lui, oui. C'est autre chose, c'est un tourmenté. Oui. Je l'avais rencontré une fois. Oui. C'est un tourmenté. Bon, c'est pas mon cas. Hein, Mais en même temps, la poésie peut jouer tout un rôle salvateur, comme il dit, c'est oui. Tout à fait juste.
Merci beaucoup, Michel Cozem. Donc, on rappelle les éditions Encre Vive. Hein, abonnez-vous à Encre Vive. 2 Allée des Allobroges, 31-770 Colomiers. L'abonnement, 34 € pour les 12 volumes de l'année. Voilà, merci beaucoup Michel, à très bientôt, j'espère que nous aurons le plaisir de ne pas attendre aussi longtemps avant de t'avoir dans ces studios dont tu es le familier.
Merci beaucoup aussi.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, à l'Ichaste.
De drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air.
les chiens parfois, compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles, où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des villes, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de dissous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.